Le journal, bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. Maduro ou Guaido, qui gagnera le bras de fer au Venezuela? Le pays manque de tout ou presque, mais l'aide humanitaire est bloquée en Colombie. Grand concert en ce moment avec les partisans du président autoproclamé. Nous y sommes dès le début du journal. Greta Thunberg, reçue à l'Élysée, la jeune Suédoise, figure de la lutte contre le réchauffement climatique, manifestait aujourd'hui à Paris. 2000 jeunes dans son sillage. Au sommaire également ce soir, une victime d'une annonce apostolique à Paris qui en appelle au pape. Les Algériens contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Nous sommes à Alger. Les Césars d'Eva Bétan. Et puis le temps, un peu de gris demain matin, du soleil après. La musique va-t-elle calmer les esprits au Venezuela qui s'enfonce dans la crise économique et se divise plus encore depuis que Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim? Il est à la frontière pour faire entrer demain dans le pays l'aide humanitaire américaine qui se trouve côté colombien. Sauf que l'armée, toujours fidèle à Nicolas Maduro, s'y oppose et bloque le pont de Tienditas qui sépare les deux pays. Ce soir, le bras de fer est donc musical puisque deux concerts ont lieu de part et d'autre de la frontière à 300 mètres de distance. Benjamin Eli assiste à celui de Cúcuta, en Colombie.
Au fond, à gauche, dit le monsieur, pour suivre cette foule à perte de vue, en rouge, en jaune, en bleu, les couleurs du Venezuela, jour de concert à grande échelle.
Branson.
Et où?
Où ça? Et voici Richard Branson, l'organisateur du concert, le milliardaire britannique.
Mr. Branson,
I hope it's an historic day.
J'ai de l'espoir, ce sera un jour historique, ce sera un jour rempli de joie avec de la super musique. Et nous espérons qu'ils vont ouvrir le pont pour laisser passer l'aide humanitaire.
Cet homme qui vend des casquettes aux couleurs du Venezuela appelle à la chute du régime, que Maduro tombe. Jusqu'à samedi, et après c'est fini pour lui.
Cette Vénézuélienne ne veut qu'une chose, la liberté pour son pays. C'est un nouveau jour, une renaissance, dit-elle. Liberté, scande le public devant la grande scène du Venezuela Head Live, alors qu'à 300 mètres de là, de l'autre côté de la frontière, il y a le concert Pro Chavis. À 300 mètres de là, Nicolas Maduro a choisi de rester sourd aux cris de ces Vénézuéliens qui ont décidé qu'il n'était plus leur président. À Cúcuta, Jérémy Tulle, Benjamin Illy, France Inter.
Et 250 000 personnes sont sur place à Cúcuta et le concert espère lever 100 millions de dollars. De son côté, Moscou, allié de Maduro, voit l'aide américaine comme un prétexte à une action militaire. Eux sont venus se ranger derrière une figure, une jeune fille de 16 ans, une adolescente suédoise inconnue l'été dernier, mais qui a commencé à faire grève tous les vendredis devant le Parlement à Stockholm et qui depuis martèle son message aux politiques: faites davantage pour la planète. On l'a vu à Davos ou Bruxelles, son action a inspiré les jeunes Belges et fait tache d'huile en Allemagne, en Australie, en Grande-Bretagne, et donc aujourd'hui à Paris où Greta Thunberg a fait le déplacement. 2000 jeunes à ses côtés comme Victor, 14 ans, au micro d'Adrien Toffolet.
Ouais, le fait qu'elle soit venue, et d'ailleurs, je la verrai peut-être pas, mais je la remercie. Merci Greta Thunberg d'avoir initié ce mouvement, d'être arrivée devant le Parlement suédois juste avec une pancarte et d'avoir créé un mouvement mondial. Et j'ai pas envie de dire, je trouve que ça fait un peu cliché, mais c'est souvent les jeunes qui font bouger les choses, même si beaucoup de personnes âgées peuvent nous aider, évidemment. Mais quand une nouvelle jeunesse a une nouvelle idée de la société, qu'on n'a pas envie d'acquérir le plus de richesses matérielles, qu'on n'a pas envie de tout le temps prendre l'avion, de tout le temps prendre la voiture, qu'on se dit tiens, si on allait adapter notre mode de vie, et si tout le monde pense comme ça, et de toute façon on est la nouvelle génération, du coup on ne pourra pas nous empêcher de penser ça.
Et Greta Thunberg est reçue ce soir par Emmanuel Macron à l'Élysée. Juliette Binoche, Yannick Jadot ou encore la maire de Paris étaient là également. Anne Hidalgo qui regrette par ailleurs que la circulation alternée ne soit pas automatiquement mise en place lors des pics de pollution aux particules fines. C'est le cas depuis quelques jours avec le beau temps, Sandy Dauphin.
Cette pollution typique de la fin de l'hiver et du début du printemps s'est installée progressivement depuis une dizaine de jours sur la région parisienne, visible à l'œil nu, comme le remarque Christian, un promeneur.
Une espèce de brume, regardez là-bas, côté Tour Eiffel, qui est un peu dans une brumasse, un gris bleu là. On sent que c'est plus difficile à respirer.
Habituellement, les particules fines issues essentiellement du trafic routier et du chauffage au bois sont dispersées par le vent, mais en ce moment, elles stagnent au-dessus de la ville. Charlotte Songeur, ingénieure à Air Paris, l'organisme indépendant chargé de surveiller la qualité de l'air.
Il fait très froid la nuit, il fait doux la journée et l'après-midi, donc on a une inversion de température qui va se créer, et donc la nuit, on va piéger tout ce qu'on va émettre. C'est comme si on mettait sous cloche la pollution, tout ce qu'on va émettre, ça va rester à hauteur de respiration. C'est comme si on diluait du sirop dans un tout petit peu d'eau au lieu d'un grand verre d'eau habituellement.
Plus les particules sont fines, comme en ce moment en Ile-de-France, les particules inférieures à 2,5 microns, et plus elles sont nocives pour la santé, car elles s'immiscent plus facilement dans le système respiratoire.
La pollution aussi, notamment à Marseille, dans le bassin lyonnais et dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. À Châtel, également en Haute-Savoie, c'est l'incompréhension totale après l'incident d'hier sur un télésiège de la station. Une fillette de 5 ans qui prend des cours de ski, qui monte avec des personnes et qui y est retrouvée inconsciente à l'arrivée, la tête coincée entre le siège et le garde-corps. Elle a été réanimée par le secours et transportée en urgence absolue à l'hôpital de Genève, où son état semble s'améliorer doucement. Les gendarmes, Marie Hameline, cherchent à savoir ce qui s'est passé.
Les gendarmes ont notamment recueilli le témoignage crucial des personnes présentes sur le télésiège avec la fillette. Ils ont aussi entendu l'exploitant des remontées mécaniques et de ce télésiège flambant neuf inauguré en janvier, ainsi que le moniteur de ski qui encadrait le cours collectif auquel participait la petite vacancière hollandaise. Mais en l'état, des investigations indiquent le parquet de Thonon-les-Bains, aucun scénario ni responsabilité n'est établi. Alors en attendant de savoir ce qui s'est passé sur ce télésiège, comment cet enfant s'est retrouvé en pareil péril, Laurent Reynaud, le délégué général de Domaines Skiables de France, le syndicat national des remontées mécaniques, nous rappelle la première règle de sécurité avec des enfants sur ces appareils.
La réglementation prévoit effectivement que les plus petits enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des personnes capables de manipuler ce garde-corps, en l'occurrence. Si quelqu'un à côté de vous a besoin d'aide, il faut lui prêter assistance.
Et pour être encore plus précis, c'est une question de taille. Un enfant de moins de 1,25 m ne peut être transporté sur un siège que s'il est accompagné d'au moins une personne en mesure de l'aider. C'est pourquoi, dans les cours collectifs, les enfants sont répartis sur divers sièges avec en général des inconnus.
Marie Hameline à Chambéry pour France Inter. Les gens qui ont adhéré à la manif pour tous ne sont évidemment pas des terroristes. Marlène Schiappa s'excuse dans un communiqué. Après ses propos sur la convergence idéologique entre le collectif anti-mariage gay et les terroristes islamistes, c'était dans Valeurs Actuelles, la manif pour tous dit essayer de retirer sa plainte déposée à la Cour de justice de la République. Lui aussi a l'habitude des phrases choc, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est même devenu le cauchemar de sa fille qui a pris sa suite à la tête du FN, devenu Rassemblement National. Et Jean-Marie Le Pen continue de déraper à 90 ans, en l'occurrence cette semaine sur l'antisémitisme. Maxence Lambrec a rencontré le fondateur du Front National dans ses bureaux de Montretout près de Paris.
Il ne rate rien de l'actualité et continue de chercher partout des complots. Pour lui, ces croix gammées en Alsace sont trop parfaites et interviennent au bon moment.
J'ai trouvé assez étonnant ce saccage du cimetière, très organisé, très professionnel, ait lieu la veille de la réunion populaire.
Il a d'ailleurs apprécié que sa fille n'y participe pas, car au fond, il ne croit pas en une flambée de l'antisémitisme.
Pas très artificiel, oui, ce que... Le fait qu'un individu est interpellé Finkielkraut, c'est un incident mineur, c'est pas une manifestation politique.
Tout cela lui rappelle la profanation du cimetière de Carpentras en 90. Il compte y revenir dans ses mémoires.
Il a été démontré que Carpentras était une affaire totalement manipulée et que le Front National s'était tout à fait tenu à l'écart de toute responsabilité dans cette affaire.
Et dans ce livre, Jean-Marie Le Pen va consacrer un chapitre entier au détail. Une sortie qu'il assume. Un détail, c'est l'élément d'un ensemble, a-t-il écrit. L'offensive de l'URSS aussi, c'est un détail de l'histoire de la Seconde Guerre. Un plaidoyer qu'il publiera en septembre pour éviter de perturber la campagne européenne de sa fille.
Lui a été victime de l'ambassadeur du pape le 17 janvier à Paris, des mains très appuyées aux fesses lors d'une cérémonie de vœux à l'hôtel de ville. Mathieu de la Souchère est cadre à la mairie, en charge des événements internationaux. Il a porté plainte contre le nonce apostolique Luigi Ventura et il en appelle aujourd'hui au pape qui préside en ce moment au Vatican la conférence sur les abus sexuels.
Je parle aujourd'hui parce que moi j'ai pris mes responsabilités en allant porter plainte le 24 janvier. Mais depuis, c'est un silence assourdissant. Personne ne prend en considération ma plainte. Il ne s'est strictement rien passé, si ce n'est l'audition des victimes, puisqu'on est trois, et celle des témoins. Pourquoi ? Parce que pour que les choses se passent normalement, il faut que Mgr Ventura puisse être entendu. Or, il faut lever son immunité diplomatique. Et pour ce faire, le gouvernement français doit demander cette levée d'immunité au Vatican. Or, ce n'est pas fait. Et le Vatican n'a pas pris l'initiative de le faire de manière autonome. Et ce sommet, j'espère de tout cœur que ce ne sera pas qu'un sommet de communication. Je trouve que ce serait un geste fort que dans ces 3 jours soit levée l'immunité diplomatique de Mgr Luigi Ventura.
Mathieu de la Souchère au micro de Julie Pietri. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. C'est une victoire de plus dans la lutte contre le djihadisme après la frappe de mercredi contre les frères Klein en Syrie. On apprend la mort d'un chef d'un des principaux groupes djihadistes au Sahel, l'Algérien Jamel Okacha, tué hier au Mali par les militaires français de l'opération Barkhane, alors qu'Edouard Philippe, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian arrivent ce soir à Bamako.
France Inter, le journal de 19h. Sébastien Paour.
Les Algériens descendent dans la rue contre le 5e mandat du président Bouteflika, le chef de l'État au pouvoir depuis 99, malade, quasi immobile et invisible depuis 6 ans, mais candidat à un nouveau mandat. Plusieurs rassemblements dans le pays aujourd'hui, le plus important à Annaba, à 400 km à l'est d'Alger. Plusieurs centaines de personnes également dans la capitale, où les manifestations sont interdites officiellement depuis 2001. Sur place, pour Inter, Leïla Berato.
Les forces de sécurité avaient été déployées dans la capitale. À la fin de la prière de la mi-journée, des milliers de personnes se sont rassemblées et ont défilé dans le centre-ville d'Alger. Drapeau sur le dos, pancartes à la main, téléphone à bout de bras, les manifestants scandaient des slogans contre le 5e mandat du président Bouteflika. Nadia avait préparé un t-shirt avec le chiffre 5 barré de rouge.
On a marre de ce pouvoir. C'est-à-dire, il nous a assez réprimés, il a mis le pays dans le chaos.
Le cortège dépasse le commissariat central, puis se dirige vers le palais du gouvernement. Dans la foule, il y a beaucoup de jeunes. Sofiane est médecin et il est venu manifester avec des amis.
Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je représente la jeunesse algérienne qui a fait des études, qui s'est donnée à fond pour se construire un avenir. Et malheureusement, on n'arrive pas à le faire parce qu'il y a des gens qui le stoppent. Il y a ce système qui ne stoppe.
En fin d'après-midi, les forces de sécurité utilisaient des gaz lacrymogènes et des canons à eau contre des manifestants qui tentaient de s'approcher de la présidence. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Plus de 3000 civils encore présents dans Baghouz, dans l'est de la Syrie, le dernier bastion du groupe État islamique où Fabien Klein a été tué avant-hier. Une quarantaine de camions ont encore quitté la ville ce midi. Officiellement, c'est pour aider la marine libyenne à lutter contre l'immigration clandestine. Mais l'initiative fait bondir les ONG qui aident et sauvent les migrants en Méditerranée. La France va donner 6 hors-bord aux gardes-côtes de Tripoli. Jusqu'ici, seule l'Italie avait ainsi fourni un coup de pouce à la Libye. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Sébastien.
6 bateaux et déjà beaucoup d'indignation du côté des organisations non gouvernementales.
Oui, alors que ce n'est qu'une goutte d'eau dans le dispositif militaire de Tripoli. 6 hors-bord seulement qui s'ajoutent aux 8 vedettes et aux 16 patrouilleurs de la marine libyenne. C'est donc une contribution très modeste, un geste symbolique et surtout inédit, destiné selon le ministère des Armées, à soutenir, je cite, la lutte contre l'immigration clandestine. Michael Neumann est le conseiller aux opérations sur les questions migratoires pour l'ONG Médecins Sans Frontières.
C'est la première fois que la France se rend à ce point-là, je dirais concrètement complice d'un renforcement d'une politique criminelle. La France persiste dans une attitude qui nous semble inacceptable. C'est une politique qui tue des gens. Les ONG ne peuvent plus faire grand-chose en Méditerranée pour empêcher les gardes-côtes libyens d'intervenir, des gardes-côtes libyens qui sont très largement soutenus par les Européens et donc maintenant la France, avec pour résultat l'entretien d'un système qui est absolument détestable.
Un système qui est désormais bien installé, puisque la livraison des bateaux est une première étape dans la coopération militaire entre Paris et Tripoli sur la base d'un récent accord bilatéral. Une alliance qui s'ajoute à l'aide italienne et à la formation européenne via son agence Frontex. Et les résultats sont là. Les tentatives de traversée ont chuté de 80% entre 2017 et 2018. Mais si elles sont moins nombreuses, elles sont aussi bien plus dangereuses. La Méditerranée est encore cette année la voie maritime la plus meurtrière du monde.
Thibaut Lefèvre, un cinquième globe en combiné pour Alexis Peintureau, le skieur de Courchevel, remporte l'épreuve de Bansko en Bulgarie devant le numéro 1 mondial Marcel Hirscher. C'est sa 22e victoire en Coupe du Monde de ski alpin. Très rude tirage au sort pour Rennes en Ligue Europa. Les Bretons affronteront Arsenal en 8e de finale, l'un des favoris pour le titre. Match aller le 7 mars en Angleterre, une semaine après à domicile. Elle fait 30 cm, elle pèse 3 kg et ils voudront tous la voir ce soir, la petite bûche de bronze compressée. Le César, récompense du cinéma français, c'est ce soir à partir de 21h. 44e cérémonie présidée par Christine Scott Thomas et présentée par Cadmera. D'ici à la rédaction de France Inter, le cinéma, c'est Eva. Bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir.
On a dit déjà beaucoup de choses sur ces Césars, alors parlons de vous. Eva, quel est votre palmarès, votre film de l'année à vous?
Écoutez, il n'est pas dans la sélection, donc c'est un peu embêtant. C'est le film d'Abdelatif Kechiche, Mektoub My Love, à partir d'une histoire minuscule. Il y a toute l'envergure, toute la beauté d'avoir 20 ans. C'est probablement le plus grand metteur en scène français.
Sinon, alors prenons
sinon,
la
on
liste.
Va faire Exia.
Alors, meilleur film, Le Grand Bain, oui. La Douleur, En Liberté, Les Frères Sisters, Jusqu'à la Garde, Pupi et Guy.
Je voudrais mettre l'accent sur trois films, Le Grand Bain, Les Frères Sisters et Jusqu'à la Garde. Je pense qu'il est fort probable que Le Grand Bain gagnera le meilleur film, parce que c'est comme la quadrature du cercle qui a été réussi. Un film populaire et un film qui est en même temps plein de qualités d'humour, qui plaît aussi à la critique. C'est des petits miracles qui arrivent quelquefois. Vous savez, en 85, quand les Ripoux à l'Oscar du meilleur film de Claude Didi, en face de lui, il n'y a rien moins que que rien moins que Alain René, Éric Rohmer et Bertrand Tavernier. Donc il y a des moments où l'ambiance générale pousse un film. Il ne faut pas oublier Jacques Audiard qui peut figurer quelque part meilleur réalisateur. Tous les grands cinéastes, à un moment donné, ont envie de se confronter au mythe de l'Amérique, encore qu'il la reconstitue en Espagne et en Roumanie pour faire un film intime sur les frères. Jusqu'à la Garde est un très beau film, mais qui peut être bien dans le palmarès avec d'autres prix. Meilleur premier film, ou l'interprétation pour Denis Ménochet, qui est remarquable en sorte de mari-père monstre, et Léa Drucker en femme qui souffre de cet homme-là. En face d'elle, Virginie Efira.
Dans Le Grand Bain, la coach un peu dépressive aussi.
Exactement. J'aimerais bien que quelque part, on n'oublie pas un premier film formidable, Scheherazade, qui parlait des gamins de Marseille.
Bon, on a fait le tour.
On verra.
Voilà. C'est ce soir 21h et puis vous faites le point dans les flashs de France Inter.
Je serai là.
Nuit de dimanche à lundi, ce sont les Oscars.
Et on sera là aussi.
Et il y a Robert Redford ce soir.
Et Robert Redford, vous avez un mythe en action, tout le cinéma des années 70,
à
etc.
Africa, Jeremiah Johnson,
oui, Butch Cassidy et The Kid, le duo avec Paul Newman, on serait intarissable.
Merci Eva Bétan. Du cinéma, on passe à la peinture avec la très belle collection Courtauld exposée à la Fondation Vuitton à Paris. Bonsoir Jacqueline Pétrose.
Bonsoir Sébastien.
Monet, Renoir, Cézanne, Turner, il y a de très très belles choses chez ces collectionneurs du XXe siècle.
Alors vous allez me dire, Sébastien, encore des impressionnistes. Mais les tableaux qui sont présents, vous les connaissez certes, mais le plus souvent en reproduction. Là, face à eux, eh bien c'est un choc. En vedette, un bar aux Folies Bergères de Manet, le regard perdu de Suzon, les détails de la vie parisienne, fascinant. Puis Degas, Monet, Pissarro, Renoir, les joueurs de cartes de Cézanne sont là, la tête vous tourne de couleurs, de sensations. Samuel et Elisabeth Courtauld, industriels fortunés, avaient un goût très sûr et surtout, ils aimaient l'art pour le partager. Karen Serre, qui est commissaire de l'exposition.
C'est ça qui est vraiment touchant avec cette collection. Elle a été constituée en moins de 10 ans par un couple, Samuel et Elisabeth Courtauld, anglais, qui n'avaient pas de formation particulière, mais qui vraiment faisaient le tour des galeries en Europe et qui achetaient ce qu'ils aimaient, des œuvres avec lesquelles ils vivaient tous les jours et qui devaient, pour eux, leur procurer une émotion, un plaisir renouvelé. Mais au même moment où ils ont commencé à collectionner pour eux-mêmes, ils ont aussi donné une très grande somme d'argent à la National Gallery pour acheter des œuvres pour le grand public. Et les œuvres qu'ils ont achetées, telles les tournesols de Van Gogh ou une baignade à Asnières de Seurat, sont aujourd'hui les œuvres les plus populaires de la National Gallery.
Et il y a un Cézanne méconnu, le lac d'Annecy, un autoportrait de Van Gogh, Lautrec, Modigliani, Gauguin. Je ne vous dis que ça, un enchantement.
La collection Courtauld, le parti de l'impressionnisme, c'est jusqu'au 17 juin à la Fondation Vuitton. J'ajoute que Karl Lagerfeld a été incinéré aujourd'hui comme il le souhaitait. Seule Virginie Viard qui lui succède chez Chanel, Bernard Arnault, le patron d'LVMH, et Caroline de Monaco étaient là. Les cendres du couturier devraient rejoindre celles de son grand amour, Jacques de Bacher.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes.
Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Samedi, sous le soleil.
Oui, et dans la douceur, puisque même si les températures vont perdre quelques degrés, on restera largement au-dessus des normales de saison, avec 13 à 20 degrés en général, et même 21 degrés du côté de Bordeaux. Il fera par exemple 15 degrés à Paris, Grenoble et Le Havre, 17 degrés à Nantes, 18 degrés à Marseille et à Biarritz. Sur le nord-est, mais aussi sur l'est de la Corse, l'ambiance sera un peu plus fraîche. On attend 12 degrés seulement à Bastia, Mulhouse et à Metz. Sur un large quart nord-ouest et en Auvergne, Rhône-Alpes, il faudra quand même composer avec des grisailles matinales avant le retour du soleil. En Provence et sur l'est de la Corse, le ciel sera par moments bien nuageux, mais on profitera quand même de belles éclaircies à un moment de la journée. En Corse d'ailleurs, le vent sera fort, voire très fort. Le nord-est aura aussi une petite bise, ce qui favorisera le brassage et donc un air un peu moins pollué qu'aujourd'hui.
Rapidement pour dimanche.
Eh bien, pas ou peu de changements, puisque ce sera une nouvelle journée encore largement ensoleillée dans l'ensemble. On retrouvera quand même un peu de grisaille. L'évolution sera généralement favorable. La Corse aura un ciel voilé et gardera beaucoup de vent. Et puis côté température, on gardera des maximales douces avec 11 à 18 degrés. Mais en début de journée, il fera froid avec le retour de fréquentes gelées sur la moitié nord.
Merci Sébastien Léas. Merci aussi à Loïc Frappsos et Tristan Gratalan qui étaient toute la semaine aux manettes des journaux de 13, 18 et 19 heures de France Inter.